Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Une trentaine de candidats à l'exil sont morts noyés le week-end dernier au large de la Tunisie. Un attentat a tué au moins 6 personnes en Afghanistan, une attaque suicide dans la capitale afghane. L'Irak modifie sa loi électorale. Le Parlement irakien a entériné le retour au système d'avant le mouvement anti-pouvoir de 2019. Le mois de Ramadan, l'un des 5 piliers de l'islam, entretien dans votre édition avec le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou. Le parquet algérien a requis 5 ans de prison ferme à l'encontre du journaliste Issan El Kadi. 10e journée de mobilisation intersyndicale ce mardi contre la réforme des retraites. Des perturbations sont prévues, notamment dans les transports. Regard dans votre journal sur le parcours de la militante et écrivaine Monique Hervault. Elle est décédée la semaine dernière à l'âge de 95 ans. Monique Hervault avait été naturalisée algérienne par décret présidentiel en 2018. Le président et fondateur de l'association Les Oranges, Mohamed Kaki, l'a bien connu. Il sera l'un de nos invités. Une trentaine de candidats à l'exil sont morts noyés dans 3 naufrages au large de la Tunisie. Un drame le week-end dernier au large des côtes du centre-est du pays. Les gardes-côtes ont pu secourir 11 personnes. La garde nationale tunisienne fait régulièrement état de l'interception de centaines de migrants au large de la Tunisie. Des personnes à bord de bateaux en route clandestinement vers les côtes italiennes. Emmanuel Macron et la présidente du conseil italien, Giorgia Meloni, ont appelé vendredi dernier à soutenir la Tunisie confrontée à une grave crise financière. Dans ce contexte de forte augmentation des départs irréguliers, la France et l'Italie appellent à ce qu'un accord soit trouvé avec le Fonds monétaire international pour soutenir l'économie tunisienne. Un attentat a tué au moins 6 personnes en Afghanistan, 6 civils tués à Kaboul lors d'une attaque suicide près du ministère des Affaires étrangères. C'est la 2e fois en moins de 3 mois qu'un attentat est perpétré près de ce ministère. Le mois de Ramadan, depuis jeudi dernier en France notamment, à l'occasion du mois sacré pour les musulmans, entretien avec le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou.
Le mois de Ramadan, c'est une saison spirituelle favorable à une pratique particulière, celle de l'esprit qui consiste à s'abstenir de la consommation de la nourriture et de la pratique sexuelle la journée, dans le sens de l'imitation des anges, dans une perspective de paix et de sérénité. Le but, c'est de transformer la personne musulmane en une personne paisible, solidaire, parce qu'on se prive pour partager avec autrui. Donc le jeûne a une dimension verticale, c'est une connexion symbolique avec le divin, qui consiste à imiter Dieu lui-même, qui ne mange pas, qui ne boit pas, qui ne copule pas, mais en même temps, ce jeûne-là doit procurer aux musulmans une forme de générosité et de partage. Partager la faim avec les vulnérables, c'est l'expérience de la vulnérabilité pour pouvoir développer une forme d'attention à l'égard d'autrui qui est vulnérable, qui a faim, qui a soif. Et donc, c'est une dimension très importante. C'est un mois de paix, de recueillement, de prière, mais également de production. Il ne s'agit pas de jeûner pour s'affranchir de ses devoirs professionnels. Le musulman, lorsqu'il est malade, lorsqu'il est faible, il a une dérogation de ne pas jeûner et de rattraper sa journée. Parce que le but du jeûne, ce n'est pas mortifier et d'affaiblir le corps, mais de donner une forme de force volontaire, d'aiguiser la volonté pour être totalement dans la cité. Il ne s'agit pas de chercher une excuse du jeûne pour s'affranchir de ses devoirs. Donc, au contraire, le jeûne doit être un facteur également économique, et qui ne porte pas préjudice ni à la santé physique ni à la santé économique de la nation. Donc le jeûne a une portée sociale qui doit être conservée. Il ne s'agit pas d'une pratique comme ça absurde. Jeûner pour jeûner n'a aucun sens. Ça doit être une pratique qui bénéficie à celui qui la pratique. C'est une thérapie, c'est une résistance contre la consommation à outrance. On est dans une société où nous sommes gouvernés par des pulsions de consommation. Le jeûne vient pour modérer justement cette nature de consommation. Donc c'est une expérience de la modération des instincts. Et donc il ne s'agit pas d'une privation pour la privation. Il ne s'agit pas non plus de transformer la nuit en ramdam. Le ramadan, ce n'est pas le ramdam la nuit. Il faut une hygiène dans la pratique. Il faut un sommeil régulier. Il ne faut pas rattraper ce qu'on a manqué la journée, une surconsommation de la nourriture le soir, c'est nuisible à la santé et à la spiritualité. Et donc effectivement, il y a un art du jeûne que malheureusement beaucoup de musulmans ne respectent pas.
C'est un mois propice au dialogue interreligieux, notamment lors des iftars.
Oui, c'est une portée interconvictionnelle des jeunes, c'est la rencontre de l'autre également, partager la table, c'est un moment de convivialité, donc c'est très important de rencontrer l'autre, de dialoguer avec l'autre. Il y a une portée d'altérité, justement, du jeune. Il ne s'agit pas de s'isoler de la société, au contraire, de rencontrer l'autre. C'est aussi une occasion de dialogue interreligieux et interconvictionnel de façon plus large.
Un mois de Ramadan qui se déroule cette année dans un contexte social particulièrement tendu en France.
Oui, la pratique du jeûne est une pratique d'apaisement. Bien sûr, il faut revendiquer ses droits quand on estime qu'on a des droits à revendiquer, mais je pense que le jeûne, il est anti-violence par essence. L'islam, en tout cas, la pratique du jeûne est antinomique à la violence symbolique et physique, raison de plus. Et donc, effectivement, c'est un mois de civilité également. Nous sommes dans un pays démocratique, on peut manifester, mais dans le respect des institutions et dans les règles de l'art de la revendication. Il faut donner une perception civilisée de notre société et ne pas donner une image très violente de notre société française. Certes, il y a une crise économique, il y a une crise de modèle, etc. Mais pour le croyant que je suis et pour le cas des musulmans qui jeûnent sereinement, ça ne doit pas être une pratique qui est récupérée par des considérations politiques, notamment des revendications violentes. Bien sûr, il faut revendiquer. Nous traversons une crise identitaire, sociale et économique. Je pense qu'une religion, elle vient pour accompagner les transitions dans la sérénité, la paix et non pas dans la violence.
Vous avez souligné que ce mois était propice au dialogue interreligieux. Estimez-vous que l'islam gagnerait à être mieux connu?
Je pense que l'islam souffre d'une image très négative vu les comportements et les discours d'un certain nombre de ses fidèles. L'islam a toujours été, au cours de l'histoire, un facteur de civilisation. Bien sûr, c'est une religion qui est portée par des hommes et des femmes. C'est de la qualité de ces hommes et de ces femmes dont dépend la qualité de cet islam. Donc, il faut travailler sur l'humain parce que c'est l'humain qui est la matière première d'une religion. Et donc, il ne s'agit pas de parler d'un islam dans le ciel. Il est incarné dans des musulmans qui sont traversés par les mêmes craintes que le reste de leurs concitoyens. Il y a une incertitude existentielle dont souffrent également les musulmans, une crise d'identité dont souffrent également les musulmans, donc ils ne sont pas en dehors de la société. Mais l'islam en tant que spiritualité, il est favorable à l'épanouissement de l'individu et son intégration dans le monde avec paix et sérénité.
Le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou. Le parquet algérien a requis 5 ans de prison ferme à l'encontre du journaliste Issan El Kadhi. La justice l'accuse d'avoir reçu de l'argent de l'étranger. Issan El Kadhi est détenu depuis la fin décembre. Le verdict est attendu dimanche 2 avril prochain. Issan El Kadhi et ses avocats ont gardé le silence durant le procès. Ils dénoncent les violations juridiques qui ont entaché l'affaire. L'Irak modifie sa loi électorale. Le Parlement irakien a entériné le retour au système d'avant le mouvement anti-pouvoir de 2019. À l'époque, les manifestants avait obtenu la mise en place d'un système favorisant l'émergence de candidats indépendants. Ce retour en arrière a provoqué la colère des partis indépendants et d'opposition. Un communiqué de l'Assemblée indique que la loi a été adoptée, mais le décompte des voix n'est pas détaillé. La nouvelle loi signe la suppression des 83 circonscriptions électorales existantes. À la place, chacune des 18 provinces constitue une circonscription. L'Irak retourne par ailleurs à un mode de scrutin proportionnel. Israël et les Émirats arabes unis ont signé un accord douanier, la dernière étape pour l'entrée en vigueur d'un accord de libre-échange. Les deux pays ont normalisé leurs relations diplomatiques en 2020. 10e journée de mobilisation intersyndicale ce mardi contre la réforme des retraites en France. Des perturbations sont prévues dans les transports, les écoles, le ramassage des déchets et les raffineries. La SNCF fait état de déplacements fortement perturbés avec 4 TGV Inouï et Ouigo sur 5, 2 TER sur 3, 2 intercités sur 5. sur 3 en moyenne. En Île-de-France, la régie de la RATP prévoit un trafic perturbé dans les métros et très perturbé dans les RER. Regard à présent sur le parcours de la militante et écrivaine Monique Hervault. Elle est décédée la semaine dernière à l'âge de 95 ans. Monique Hervault avait été naturalisée algérienne par décret présidentiel en 2018. Le président et fondateur de l'association Les Oranges, Mohamed Kaki, l'a bien connue, entretient.
Monique Hervault est une grande dame, c'est une écrivaine, c'est une grande militante qui, dans les années, fin des années 50 et les années 60 jusqu'en 1973, était au service civique international. Et c'est une dame qui a aidé beaucoup les gens dans les bidonvilles de Nanterre, singulièrement, de manière administrative, mais aussi contre la répression policière à l'époque, parce qu'il faut savoir que dans les années 60, au-delà du 17 octobre, la police venait régulièrement dans les bidonvilles de Nanterre et il y avait des violences policières, une répression accrue contre les gens, des habitants du bidonville, parce qu'ils étaient suspects, ils étaient tous suspectés d'être des membres actifs du FLN et donc des révolutionnaires potentiels. Et donc le 17 octobre, elle a soigné des gens, elle a eu une proximité avec les familles algériennes très très importante et elle a été véritablement touchée, elle a créé des liens formidables avec eux. D'ailleurs, elle a fait plusieurs livres sur ses mémoires et surtout son action dans les bidonvilles, puisqu'elle a gardé beaucoup d'archives, des photos, des interviews qu'elle a fait, qu'elle a remis à l'INA. Monique Hervault est aussi une grande enquêtrice, quelqu'un qui était dans l'immersion au sens anthropologique du terme, et qui a fait vraiment un travail de fond. Elle était sans concession par rapport aux bavures policières et aux abus administratifs qu'il y avait sur les gens qui étaient sans défense, il faut le rappeler. Et donc, pour nous, c'est une grande père, c'est une grande sœur, c'est une fille formidable qui a donné sa vie aux autres pour la justice, pour la fraternité, pour l'égalité. C'est quelqu'un de formidable que nous perdons là. Et moi, je me souviens, parce qu'elle est partie durant un moment de sa vie, à Nogent-sur-Seine, elle vivait dans un camping, et j'allais la voir avec des amis, nous allions la voir dans cette caravane où elle écrivait, parce qu'elle s'était mise en retrait pour pouvoir écrire, parce qu'elle me disait, Mohamed, pour écrire, il faut se mettre en retrait, il faut garder les archives, y compris les tickets de métro, je me souviens. Et à cette occasion, elle m'avait demandé comment avoir la nationalité algérienne, parce qu'elle souhaitait l'avoir. Je l'avais mis en lien avec les autorités algériennes, et donc elle l'a obtenue. Et ensuite, elle a fait une deuxième demande. Elle m'avait dit, mais je souhaiterais être enterré en Algérie. Et donc je lui dis, mais Monique, il faut en faire la demande, faut formaliser. C'est quelqu'un de très important pour nous et nous allons lui d'ailleurs, l'association Les Oranges va lui rendre un hommage important et nous allons d'ailleurs demander aux autorités locales qu'il y ait un boulevard Monique Hervault à Nanterre ou qu'il y ait une structure culturelle à Nanterre puisqu'elle a donné sa vie à Nanterre, ville historique de l'immigration algérienne. Et donc, du coup, voilà, on pourrait aussi imaginer un équipement culturel qui s'appellerait Monique Hervault.
Comment est né son lien avec l'Algérie ?
Alors, ses liens avec l'Algérie sont nés avec la guerre d'Algérie. C'est-à-dire, dès le départ, elle a toujours... c'est une anticolonialiste, dès le départ, elle a toujours... ne supportait pas... des exactions, la guerre qu'on faisait aux Algériens, et surtout ces liens avec l'Algérie se sont consolidés au bidonville de Nanterre à partir de 1958-1959 et toutes les années jusqu'en 1973 où elle a réellement vécu avec les Algériens dans les bidonvilles où elle les a aidés au quotidien. C'était ce travail important, hein, un travail social, hein, vraiment important, où il y a eu des liens, où elle a vu les injustices, y compris ces enfants qui avaient des difficultés d'aller à l'école, parce qu'il faut se rappeler que, recontextualiser à l'époque, c'était la boue, c'était des humiliations, c'était des difficultés d'accéder à l'école, etc., etc. Elle s'était battue pour le relogement ensuite. Voilà, donc ça a été... il y a eu les cités de transit par la suite, elle a fait un boulot extraordinaire. Et quand on est dans l'action, eh bien, les liens se renforcent. Et en tout cas, c'était une anticolonialiste vraiment depuis toujours.
Une militante associative qui s'est battue notamment contre le mal logement.
C'est ça, contre le mal logement. En fait, moi, je dirais que Monique Hervault, c'est notre Louise Michel. C'est notre Louise Michel de la commune. C'est quelqu'un qui ne supporte pas les injustices, les inégalités. Donc elle s'est battue effectivement pour le relogement dans un premier temps dans les cités de transit, et puis ensuite pour les HLM. Et donc ça a été une longue bagarre. Monique Hervault, c'est une lionne qui ne supporte pas les injustices, qui ne supportait pas les brutalités, parce qu'à l'époque il y avait des brutalités permanentes, hein, mais des violences, y compris administratives, avec la préfecture, avec il y avait un racisme incroyable dont on ne peut pas imaginer, puisque c'était presque la fin de la guerre d'Algérie, et donc on connaît les violences du 17 octobre 61 et ses conséquences, dont Monique a fait un travail extraordinaire pour aider les gens à l'époque, et notamment les soigner très concrètement.
Et ses liens avec l'Algérie, ces liens ont existé jusqu'à la fin de sa vie.
Absolument, elle n'a jamais coupé les liens, même lorsqu'elle était à Nogent-sur-Seine, elle était toujours en lien avec nous. Moi, j'allais la voir régulièrement avec plein d'Algériens et d'Algériennes. Le souvenir de Monique reste formidable. Elle a toujours gardé ses liens avec les familles. Elle a un fonds de réserve de photos, c'est extraordinaire le boulot qu'elle a fait. Et surtout, elle est restée dans le cœur et dans la tête des gens. Elle constitue la mémoire collective de combat de l'histoire de l'immigration algérienne.
Le président et fondateur de l'association Les Oranges, Mohamed Kaki. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Caroline Traverse, candidate de la majorité présidentielle à l'élection législative partielle au sein de la 9e circonscription des Français établis hors de France, au Maghreb et en Afrique de l'Ouest. Émission rediffusée ce mardi matin à 7h. Émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient. Et un très grand merci pour votre fidélité.